sur le grill d'Écotable.
Je suis Fanny Gianceto. Dans ce podcast, je décrypte les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. J'interroge également des personnalités publiques sur leur relation à l'alimentation et aux enjeux environnementaux. Que l'on soit expert, scientifique ou politique, artiste, même simple citoyen, l'alimentation est l'une des clés du changement. Bonne écoute!
La vraie épigénétique, telle qu'on peut l'imaginer au sens de Waddington, c'est plutôt justement en termes de transmission de génération à génération. Okay. C'est-à-dire que qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants à travers mes gamètes? Ça serait la vraie épigénétique. Et là, effectivement, on a mis du temps à le comprendre, et du temps à l'analyser et à pouvoir mettre ça en évidence, mais il y a une transmission à travers les gamètes dans laquelle l'alimentation a un rôle à jouer. Ça a été au départ vu plutôt sur des modèles animaux. Type des souris. C'est-à-dire que l'expérience la plus célèbre, ce qu'on appelle les souris agouties. Souris agouties, c'est des souris qui expriment une enzyme justement qui change la couleur du pelage. Donc il y a les souris jaunes et les souris noires. Elles ont le même phénotype, sauf qu'effectivement, elles n'ont pas la même expression de ce gène. Donc elles n'ont pas exactement le même phénotype. Il y a le pelage qui diffère. Et ce qui était intéressant, c'est que ce qui avait été observé, c'est que les souris donc, avaient un pelage plutôt jaune, elles étaient aussi, avaient tendance à devenir obèses. Et a déclenché beaucoup plus facilement des cancers. Bon. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation entre cette couleur du pelage et l'état de santé général. Ça veut dire qu'il y a toute une cascade métabolique qui dépassait la simple expression d'une enzyme. Quoi. Et ce qui avait été remarqué, c'est que les souris avec ce pelage jaune et obèse, etc., engendraient des souris avec un pelage jaune et qui étaient obèses, etc. Bon. Donc, soit, ça c'est de la transmission. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que ces souris jaunes, obèses, cancéreuses, etc., si on les nourrissait avec une alimentation très riche en folate, elles donnaient naissance à des descendants dont une partie avait plutôt le pelage noir et échappait à l'obésité. Ah, ça veut dire que tout à coup, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Bah,
tout n'est pas déterminé.
Exactement, tout n'est pas déterminé. Si je suis une souris avec un pelage jaune et obèse, je peux aussi, en changeant mon alimentation, éviter de transmettre ça à mes descendants. Sachant que les descendants auront le même gène, mais ils ne l'exprimeront pas, parce que c'est une modification purement épigénétique.
Ah ouais.
Et donc ça, déjà, ça montre effectivement la puissance, finalement, de l'alimentation. Et ce qui avait été aussi intéressant dans ces études, c'est qu'ils avaient montré que, et pour rebondir sur les perturbateurs endocriniens, c'est une des premières études qui a pu alerter sur le bisphénol A à l'époque, parce que l'ingestion de bisphénol dans ces souris-là, en fait, contrecarrait en fait les effets positifs du folate. C'est-à-dire que, grosso modo, si on avait du bisphénol, en fait, on continuait à produire, même avec une alimentation riche en folate, on continuait à avoir uniquement des souris qui étaient obèses et cancéreuses, qui chopaient facilement des cancers, etc. Donc, on se rendait compte qu'il y avait plein de choses. Il y avait l'alimentation, il y avait les polluants chimiques de cette alimentation qui pouvaient avoir un rôle, etc. Donc ça c'est la souris, soit. Et on a vu tout à l'heure l'abeille. Et à l'échelle humaine, les quelques études qui ont pu être mises en avant là-dessus, c'est toujours sur des études liées à des restrictions caloriques, parce que c'est le plus facile à analyser. C'est les fameuses périodes de famine, qui dans l'histoire ont été analysés et on a pu effectivement repérer dans la morphologie des descendants de personnes qui avaient subi des restrictions caloriques, on a pu voir des différences métaboliques et notamment une tendance à être un peu chétive, quoi. Alors, la première génération, ça s'explique. C'est-à-dire que si je suis une femme enceinte et que j'ai restriction calorique et que je donne naissance à un bébé prématuré, chétif, etc., on dit bon, c'est juste un stress de mon environnement pendant la gestation et c'est il y a un tas de raisons métaboliques pour expliquer ça. Par contre, si l'enfant que j'ai eu, un peu chétif, dans sa vie, peut se nourrir parfaitement, correctement et a accès à tous les nutriments qu'il veut. Et puis, qu'en tant que femme, donne naissance à une fille ou un garçon qui lui-même va avoir ce même type de modification, être un peu chétif, fragile, etc. On dit, ça veut bien dire qu'en fait, ça dépasse le mode de vie. C'est quelque chose qui est transmis à travers les générations. Et c'est encore plus flagrant, finalement, parce que quand ça passe à travers le mâle, en l'occurrence. Parce que on dit, hier, si moi, je donne ma gamète, Et finalement, à travers, et ça, c'était vu aussi chez les souris, à travers le mâle, effectivement, peut passer le même type de modification. Donc là, ce n'est pas un stress environnemental, c'est vraiment la gamète qui est porteuse du stress qui a été subi par l'individu pendant sa vie. Heureusement, tout cela est réversible, c'est-à-dire qu'on se rend compte que ces effets générationnels qu'on a vus, ces populations en Irlande, dans le milieu du 19e, famine, etc., une génération, pareil, désordre métabolique, deuxième génération, désordre métabolique, mais un peu moins, troisième génération, okay. Et au fur et à mesure, ça se dilue, okay. Et tout rentre dans l'ordre. Mais voilà, on voit bien qu'il y a des, une fois de plus, à travers les gamètes, on transmet quand même pas mal de choses.
Et du coup, à l'inverse, l'obésité, pareil.
Et l'obésité, pareil. C'est-à-dire qu'effectivement, l'obésité est partiellement transmissible à travers les gamètes, et en même temps, eh bien, le phénomène étant non déterministe, heureusement, on peut aussi s'en sortir.